Le soir, leur service terminé, Libby et Annie se retiraient dans la lingerie pour fumer une cigarette assise sur les ballots de drap sale. « C'est vrai que tu ne te rappelles rien, » s'étonnait Libby. « C'est bizarre que personne ne soit venu te réclamer. Une grosse vache comme moi, je comprendrais ça. Mais une jolie fille dans ton genre, tu dois bien avoir un amoureux quelque part, non ?» D'abord hésitante, Amy lui exposa sa théorie du grand amour perdu, du jeune amant mort au combat. L'apprentie infirmière hocha la tête. « Sûre qu'à ta place, j'aurais pas envie de me rappeler ça, » murmura-t-elle. « Si ça se trouve, tu étais tellement malheureuse que tu as tenté de te suicider en sortant te promener pendant l'alerte. Qui sait, tu espérais peut-être qu'une bombe mettrait fin à ta souffrance. Si c'est ça, ton amnésie est une vraie bénédiction. Ne te presse pas de recouvrer la mémoire, tu pourrais le regretter. » Un peu plus tard, Libby guida Annie Sweetheart à travers les couloirs obscurs de l'annexe jusqu'au hall où se trouvaient punaisées les photographies des blessés non identifiés. Sur un grand panneau de bois, des dizaines de clichés s'alignaient, agrémentés de descriptions sommaires. Amy chercha son image. Elle eut du mal à se reconnaître car la photo du sergent Méridieu n'était guère fidèle. « J'ai l'air d'une otarie éblouie, » songea-t-elle. « Personne ne pourra jamais m'identifier là-dessus. » Elle en fut soulagée. Le sergent Rupert Méridieu était mécontent et vaguement inquiet. Son méchant uniforme plucheux buvait le crachin londonien comme une éponge, l'enveloppant d'une gangue d'humidité désagréable. Une fois de plus, il regretta la perte de son imperméable qui avait brûlé dans un pub bombardé. Il aurait pu certes enfiler son Burberry personnel, mais cela aurait constitué une entorse au règlement militaire et il ne pouvait s'y résoudre. L'énervement tachait de rouge ses pommettes imberbes. Sa mère l'avait encore appelé ce matin au bureau, ignorant les recommandations dont il l'avait mille fois abreuvé. Le coup de fil avait bien sûr transité par trois téléphonistes subalternes, des auxiliaires féminines de l'armée de terre, qui s'empresseraient d'en faire des gorges chaudes. Pour les auxiliaires féminines à la bouche trop peinte, il n'était qu'un fils à sa maman, planqué dans un service non combattant, alors que des dizaines de braves garçons se faisaient tuer tous les jours, aux commandes de leur Hurricane, en affrontant les Messerschmitts aux ailes chargées de bombes venues pilonner Londres. Était-ce sa faute si ses deux frères, Peter et Henry, étaient morts alors qu'apprentis pilotes, ils effectuaient un vol d'entraînement dans un de ces vieux Belheim réservés aux débutants? Ce n'était pas là une fin glorieuse, certes, mais leur mère, prompte à travestir la réalité, n'avait pas été longue à lui donner des allures d'épopée. Depuis, elle jetait sur son cadet un regard apitoyé, s'étonnant qu'il ne se soit pas encore illustré par quelque action d'éclat. « C'est comme si elle me reprochait d'être en vie, » songea Rupert Méridieu avec rage. « Qui puis-je, si ma vue n'est pas assez bonne pour m'ouvrir les portes de la RAF ?» Mais ce qui l'agaçait davantage, c'était cette fille aux cheveux rouges entrevue au St. George's Infirmary. Une amnésique. Une de plus. Depuis le début des bombardements, pas un jour ne passait sans qu'on ne retirât des décombres un traumatisé en guenilles affirmant avoir perdu la mémoire. « Soyez vigilant, mon petit !» avait nasillé le lieutenant Cécile Divon, son chef de service. « Pas de compassion excessive. Il y a beaucoup de simulateurs parmi ces pseudo-amnésiques. Des déserteurs, par exemple. Ils se débarrassent de leur uniforme, se barbouillent de suie et vont s'enterrer dans les ruines à la fin du bombardement. Quand les gars de la Home Guard les récupèrent, ils prétendent avoir tout oublié. Cela leur permet de rester planqués dans un quelconque service neurologique pendant des semaines, voire des mois, et d'éviter d'être versés dans une unité combattante. « C'est valable pour les hommes, » avait admis Rupert, « mais en ce qui concerne les femmes... » Divonne tressaillit. Du pouce et de l'index, il se mit à friser sa moustache. Ce tic très armé des Indes horripilait Méridieu. Divonne n'était jamais allé au feu, c'était un ancien flic de l'East End qui avait démarré au bas de l'échelle, à Clapham, affublé d'un casque de Bobby. La guerre l'avait gonflé d'une importance dont il avait rêvé toute sa vie. « Il faut se méfier des femmes, » énonça Divonne. « Plus que des hommes, peut-être. Certaines sont des espionnes appartenant à la cinquième colonne. Un U-boat les a débarquées de nuit sur l'une de nos côtes. Ou bien on les a parachutées en rase campagne. Leur mission est d'infiltrer nos lignes, de repérer nos défenses et d'en informer Berlin. Ne vous laissez pas attendrir, ce sont des tueuses redoutables. Dans leur cas, le statut d'amnésique est particulièrement commode. Quel mâle ne se laisserait pas attendrir par une belle fille perdue, sans identité, sans famille et sans défense, dans une ville en proie au bombardement? Formées aux stratégies d'infiltration, elles parviennent rapidement à se faire admettre dans nos rangs, elles s'appliquent à se rendre indispensables en faisant preuve de dévouement. Ce sont souvent de bonnes employées, des patriotes exemplaires. Pas plus tard que la semaine dernière, on a démasqué l'une d'entre elles, elle travaillait à la défense passive. On l'avait installée dans une tour de guet avec mission de repérer les avions Bosch s'approchant de nos côtes. Elle en profitait pour émettre des messages destinés à l'abwehr. La tour lui fournissait un formidable point d'émission. Cette discussion avait mis Meridium mal à l'aise. Immédiatement, l'image de la fille aux cheveux rouges s'était mise à volter dans son esprit. Il ne savait pourquoi, mais il y avait chez la jeune femme quelque chose d'étrange, d'indéfinissable qui éveillait sa méfiance. Elle ne ressemble pas aux amnésiques habituelles, songea-t-il. Pas assez traumatisée, pas assez désorientée. Et surtout, elle n'a pas l'air pressée de récupérer ses souvenirs. Oui, c'était là le point le plus inquiétant. Cette fille semblait s'installer dans son amnésie comme on enfile une robe de chambre avant de s'asseoir dans son fauteuil préféré pour fumer un cigare. Elle s'y trouvait bien. Meridiu avait passé la journée de la veille à arpenter le carrefour où l'on avait récupéré l'inconnu. Photographié à la main, il avait interrogé les passants, les boutiquiers, les patrons de pub. Personne ne l'avait reconnu. Cela aussi, c'était curieux. D'ordinaire, une aussi jolie fille ne passait pas inaperçue. Surtout avec cette crinière de boucles rouges. Manifestement, elle n'est pas du quartier, récapitula-t-il. Bien sûr, elle a pu débarquer en ville quelques heures avant d'être prise sous le bombardement. Peut-être venait-elle de la campagne. L'embêtant, c'est qu'à Charing Cross, personne ne se souvient d'elle. Bien sûr, tout ça ne prouvait rien. Dans l'atmosphère de chaos qui régnait dans la cité, un éléphant aurait pu s'échapper du zoo et se promener au milieu de la fumée des incendies sans éveiller l'attention des Londoniens trop occupés à courir vers les abris. Sous ces dehors d'étudiants trop sages, Rupert Meridiu cachait une volonté de fer confinant à l'obsession. Depuis qu'il avait intégré l'armée, il manœuvrait selon un plan précis, secret. Il n'était pas question pour lui d'imiter ses frères en allant faire le zouave sur un terrain d'aviation aux commandes d'un zinc d'entraînement pourri. Il connaissait trop bien l'état de délabrement des escadrilles britanniques. Les avions rafistolés en dépit de bon sens, l'apprentissage bâclé. À présent que cette hystérique de Churchill avait ramené de 6 à 3 semaines l'instruction des pilotes novices, s'asseoir dans le cockpit d'un Hurricane relevé du suicide, car l'apprentissage tuait plus d'aviateurs que les Boches. Rupert n'avait aucun goût pour la roulette russe. Il lui avait suffi de consulter la liste des pilotes morts à l'entraînement, avant même d'avoir pu tirer une seule rafale contre un avion allemand, pour comprendre qu'il devait suivre une autre voie. Celle du contre-espionnage, par exemple. Certes, il n'était pas facile d'entrer à l'intelligence service. Toutefois, s'il parvenait à mettre la main sur un espion, son dossier serait examiné avec bienveillance. Un espion, oui. Ou une espionne. Aussitôt, l'image de la fille aux cheveux rouges s'imprima sur sa rétine. À première vue, elle avait un physique d'Irlandaise. Mais qu'est-ce que cela prouvait? Plus il y réfléchissait, plus il inclinait à penser que la rouquine avait le profil adéquat. La semaine précédente, il était allé prendre de ses nouvelles au St. Jobs. On lui avait dit qu'elle s'intégrait merveilleusement, s'appliquant à soulager la misère humaine au lieu de pleurnicher dans son lit. Comme on aurait pu s'y attendre, Rupert avait jugé cela suspect. Bien sûr, il ne détenait encore aucune preuve. Mais cela viendrait tôt ou tard. Il suffisait de la tenir à l'œil. Elle commettrait une imprudence, une erreur. Ils en commettaient tous. Ce jour-là, pensa-t-il, je serai derrière elle, prêt à lui mettre la main au collet. Il frissonna dans son uniforme trempé de pluie et pressa le pas. Il lui sembla qu'au travers de sa poche, la photo de l'inconnue lui brûlait la peau. Deux nuits de suite, Amy Sweetheart fit le même rêve. Elle entendait crépiter des flammes tout près de son oreille, tandis qu'une odeur de suie lui emplissait les narines. Elle s'éveillait alors pour s'apercevoir que la maison était en feu. Il ne s'agissait pas de l'hôpital, non, mais d'une grosse maison de briques rouges, une gentilhommière, un château peut-être. Un de ces manoirs en briques, insolites comme on en trouve ça et là dans la campagne anglaise. Quoi qu'il en soit, la bâtisse ronflait comme un bûcher. Amy courait à la périphérie de l'incendie, impuissante, ne sachant que faire. À travers les flammes, elle distinguait des formes humaines se tordant dans les affres de l'agonie. Tout à coup, une voix s'élevait dans la nuit. Une voix d'enfant, affreusement triste, et qui disait « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ensuite, Amy se retrouvait seule, nue et grelottante, au centre d'une lande parsemée de briques éparses. Elle savait qu'il s'agissait des décombres du château et que sa mission consistait à les ramasser, une à une, pour reconstruire l'édifice pulvérisé. Un travail de titan qu'elle ne savait par où commencer. Il y avait tant de briques. Deux fois, elle s'éveilla en haletant, le cœur fou, et se dressa sur le lit de camp qu'elle occupait dans la lingerie au milieu des ballots de drap sale. Son instinct lui soufflait que le rêve essayait de lui transmettre un message important, un message qu'elle aurait intérêt à déchiffrer avant qu'il ne soit trop tard. Elle s'aperçut qu'elle avait peur. Pour la première fois depuis son entrée au St. Job's, elle ne s'y sentait plus en sécurité. Incapable de se rendormir, elle passa sa blouse blanche et sortit dans le couloir. Les infirmières de nuit avaient pris l'habitude de la voir déambuler et la laisser libre de ses mouvements. Amy respirait avec difficulté. Elle éprouva soudain le besoin de sortir du bâtiment. C'était nouveau. Jusque-là, elle n'avait jamais nourri aucune curiosité pour l'extérieur. Ses pas la conduisirent dans le hall, là où se dressait le panneau d'affichage surchargé de photographies. Instinctivement, elle chercha la sienne. En vain, le cliché avait disparu. Quelqu'un l'avait arraché. Son absence dessinait une tache rectangulaire dans la masse des épreuves punaisées bord à bord. Elle s'immobilisa interdite. Ça n'avait pas de sens. On ne touchait jamais au cliché, du moins tant que personne n'avait identifié celui qui y figurait. Alors, pourquoi s'en était-on pris à son image ? C'est comme si quelqu'un ne voulait pas qu'on me retrouve, songea-t-elle. Qu'on me retrouve ou qu'on me reconnaisse. Brusquement, elle eut l'impression qu'on l'observait et regarda par-dessus son épaule. Hélas, il régnait une telle obscurité à l'intérieur de la bâtisse qu'il aurait été vain d'espérer y surprendre un suiveur. Frissonnante, elle retourna se coucher. Le lendemain, le médecin-chef lui posa les mêmes sempiternelles questions. Elle répondit comme à l'accoutumée. Non, elle ne se souvenait de rien. Rien de rien. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais elle ne tenait pas à parler de ses rêves, de la voix d'enfant triste, ni du château brûlant dans la nuit. Ma pauvre petite, conclut le vieillard, je me vois forcée de vous placer dans la section des lunatiques. Je ne peux pas vous laisser aller à votre guise dans cet établissement. Votre état pourrait dégénérer, occasionner des crises nerveuses, des hallucinations, au cours desquelles vous seriez capable d'un geste irréparable. Au service neurologique, on s'occupera de vous. Ici, nous pataugeons dans la boucherie, comme vous avez pu vous en rendre compte. Des cas comme le vôtre nécessitent un environnement plus serein. Comme une cellule capitonnée, faillit rétorquer Amy. mais elle s'abstint à la dernière seconde. On lui fit passer d'autres examens. Un jeune médecin à moustache rousse la palpa, lui fit exécuter des flexions. « Vous êtes incroyablement souple, constata-t-il. La musculature de vos jambes est très tonique, comme si vous aviez exercé une activité sportive de niveau professionnel. J'ai déjà observé cette sorte de complexion chez les gymnastes, les danseuses. Les déformations et les calques que vous présentez au niveau des orteils confirment ce diagnostic. » C'est aussi ce que je pense, murmura Ami. Mais comment expliquer dans ce cas que je ne me rappelle aucun entrechat, aucune figure? Le docteur haussa les épaules. Vous avez été blessé à la tête, soupira-t-il. Vos souvenirs ont été détruits, mais également une partie de ce qu'on vous a enseigné. J'ai ici des pilotes émérites, des as de la chasse, qui ont oublié comment vole un avion. Si on les installait dans un cockpit, ils ne sauraient sur quel bouton appuyer. Ça ne s'explique pas, c'est ainsi. Le cerveau est un domaine mystérieux dont on ignore encore le fonctionnement. J'étais peut-être une grande danseuse, rêva Ami. Et j'ai perdu tout ce que j'avais appris. Des années d'apprentissage. Possible, fit le médecin sans s'émouvoir. Je ne puis garantir que vous récupérerez ce qui a été effacé. Toutefois, ne vous contemplez pas trop le nombril. Vous êtes entière, beaucoup n'ont pas eu cette chance. Si on vous donnait le choix, que préfériez-vous avoir perdu? La mémoire ou vos jambes? Cette saillie mit fin à l'entretien. Ami comprit qu'il aurait été malséant d'insister. On n'avait que faire de ses états d'âme, alors qu'au loin résonnait le bruit des scies d'amputation, débitant tibia, humérus et péroné. Le lendemain, Libby Cogan l'accompagna au service des lunatiques qui occupaient l'aile la plus vétuste de l'annexe. « Ne te laisse pas impressionner, lui souffla-t-elle. La plupart sont dingos, mais pas méchants. Il gambade en liberté parce qu'on manque de personnel pour les encadrer. On les assomme au là-haut d'un homme comme au XIXe siècle. Si tu ne veux pas t'assoupir, évite de prendre tes médicaments. J'irai te voir aussi souvent que possible. Si dans les semaines qui viennent, personne ne s'est présenté pour te récupérer, j'essaierai d'obtenir ta garde. Tu pourras t'installer chez moi. Ce n'est pas luxueux, mais c'est moins déprimant qu'ici. » Ami fut touchée par cette proposition. Après tout, rien ne la liait à l'apprentie infirmière, si ce n'est la fascination qu'elle exerçait sur cette dernière. Hélas, très vite, ce sentiment de reconnaissance fut battu en brèche par un instinct calculateur qui lui souffla d'une déplaisante petite voix. « Parfait. Tu as bien manœuvré, petite fille. » Ami en éprouva un réel malaise, comme si elle venait de découvrir sur sa joue une verrue poussée au cours de la nuit. « Serais-je manipulatrice ? » se demanda-t-elle. « Avais-je, avant de perdre la mémoire, l'habitude d'utiliser les gens au mieux de mes intérêts ?» Elle en conçut un vif dégoût pour elle-même. « Une danseuse, récapitula-t-elle, égoïste, habituée à être admirée, entourée d'une petite cour d'esclaves béates, capricieuse sans doute. » Toutefois, en y prêtant davantage attention, il lui sembla que les mots « bien manœuvrée petite fille » avaient été prononcés par une voix masculine. Une voix chargée d'un accent indéfinissable, autoritaire. La voix d'un maître de ballet peut-être, d'un chorégraphe. « J'étais sa danseuse étoile, supposa-t-elle. Il m'avait tout appris, c'était mon mentor. Aujourd'hui, s'il se présentait au parloir, il serait horriblement déçu de découvrir que j'ai oublié son enseignement. Je ne suis plus qu'un sac vide, un corps cambriolé. Il me reste les muscles, la souplesse, mais tout mon savoir-faire m'a été dérobé. » Cette idée l'obsédait. Si elle avait réussi à surmonter l'hypothèse de l'amour défunt, et avoir dans l'amnésie le seul remède à un chagrin qui l'aurait détruite, il n'en allait pas de même en ce qui concernait son art. C'était une chose de ne plus souffrir. C'en était une autre d'avoir perdu le fruit de plusieurs années d'efforts. Elle essaya d'en parler à Libby, mais la grosse fille se montra peu sensible à cette histoire de ballerine dépossédée de son talent. Elle lui préférait de loin celle du jeune et beau pilote mort aux commandes de son Spitfire au-dessus de Douvres, alors qu'il repoussait à lui seul une pleine escadrille de Stuka. As-tu pensé que tu t'étais probablement donné à lui avant qu'il parte en mission ? Rêvait-elle. La plupart des filles le font. C'est impossible de dire non à un garçon qui va peut-être mourir à son premier vol. En tout cas, moi, je ne pourrais pas. Je considère ça comme un devoir sacré, pour nous, les femmes. Nous devons apporter un peu de réconfort à ces jeunes gars qui partent au combat. Tu sais que la plupart sont puceaux ? Ces fils de bonne famille qui sortent des grandes écoles n'ont jamais eu le temps de jeter leur gourme. Ce sont des petits garçons coincés dans un corps d'homme. Quelque part, c'est attendrissant, non ? Le problème la passionnait. Sûrement parce qu'aucun soldat, jamais, ne lui avait donné l'occasion de se sacrifier comme elle l'aurait souhaité. Oui, insistait-elle chaque fois qu'elle abordait le sujet. Je pense que tu étais sa maîtresse. Une fille aussi jolie que toi ne peut pas entretenir des relations platoniques avec un mec. Si ça se trouve, vous avez fait l'amour pour la première fois juste avant qu'il parte rejoindre son escadrille. Le taux de perte est très élevé chez les aviateurs. On dit qu'il est de 2/3. As-tu envisagé que tu pourrais être enceinte ? Amil l'écoutait sans l'interrompre et sans rien éprouver. Le scénario de Libby n'éveillait aucun écho dans sa chair. « Sois vigilante !» déclara la grosse fille. « Si tu n'as pas tes règles, il ne faudra pas t'étonner. Ce serait tout de même un drôle de truc, non ? Avoir un enfant d'un homme dont on ignore jusqu'au visage. À ta place, ça me donnerait l'impression d'avoir été engrossée par un fantôme. Bon sang, ça me flanque la chair de poule rien que d'y penser.